France Inter, le 18-20.
Vous allez forcément le voir, ce spot de la police lancé donc à partir d'aujourd'hui. Très grande campagne de recrutement. Engagez-vous, qui disait 8000 postes à pourvoir pour 2018. C'est beaucoup, faut pas se tromper. L'année dernière, et on y viendra, 400 postes n'ont pas trouvé preneur parce que le niveau n'était pas celui qu'on attendait de la part des candidats. Et puisqu'on est dans les chiffres, tiens, notez celui-là. On attend autour de 25 000 candidats. Poste Bataclan, un concours exceptionnel, avait attiré 36 000 postulants à l'époque. Mais pourquoi vouloir être policier? C'est quoi aujourd'hui un flic? C'est quoi le profil dont la police a besoin? Quelle est l'image de la police également? Est-ce qu'on a envie de rentrer dans ce corps de métier-là? Est-ce que l'image est passé dans le négatif après que la France entière ait eu envie d'embrasser un flic, comme le chantait Renaud? Où en est-on de ce point de vue-là? Est-ce que les jeunes qui sont la cible de cette campagne ont une idée qui est dégradée ou peut-être trop romantique du métier de policier? Il doit y avoir les deux et voyons à quoi ça ressemble.
Bienvenue. Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Éric, c'est vous le premier, soyez le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir si, en fin de compte, dans l'histoire du recrutement pour la police, est-ce qu'il y avait un phénomène de concurrence qui s'établissait avec les notions de police privée? Parce qu'on est quand même dans une période où on nous explique qu'il y a beaucoup de statuts, disons, publics qui doivent basculer dans le privé. Je voulais savoir si la police risquait de devenir privée, je sais pas, soumise elle aussi à la concurrence.
Allez, merci beaucoup pour cette entrée en matière, Éric. C'est vrai que la privatisation d'une chose ou d'une autre, c'est un grand sujet à la mode aujourd'hui. Donc allons-y pour répondre à votre question, Éric, et pour discuter avec nous jusqu'à 20h. Le commissaire Camille Chaise est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint au chef de service, d'information et de communication de la police nationale, donc porte-parole de la police nationale. Capitaine Tatiana Brissot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de l'unité de promotion du recrutement et de l'égalité des chances à la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale. Je ne donnerai pas votre titre deux fois, je vous le dis avec beaucoup de gentillesse. Emmanuel Leclerc est là aussi. Bonsoir Emmanuel, du service enquête et justice. Camille Chaises, qu'est-ce qu'on peut répondre à Éric? Est-ce qu'il y a une possibilité de privatisation d'un certain nombre de métiers qui sont des métiers de la police? Et là donc peut-être une concurrence dans les différents postulants?
Alors une privatisation, non. On est vraiment sur la sécurité qui est un métier régalien au cœur de la société et vraiment au cœur du pacte social et du pacte républicain. Donc non, il n'y a pas de privatisation en vue de la sécurité. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on travaille de plus en plus avec tous nos partenaires, que ce soit les polices municipales, la gendarmerie nationale ou des agents de sécurité privés. Par exemple, sur les matchs de football, les personnes à l'entrée qui font les fouilles des sacs, aujourd'hui, ce ne sont plus des policiers nationaux, ce sont des agents de sécurité privés qui, pour certains, sont formés avec nous ou participent à des séances d'entraînement avec nous. Donc on travaille de plus en plus ensemble, mais ce n'est pas exactement les mêmes métiers. Il y a des missions qu'un agent de sécurité ne peut pas faire, comme par exemple les actions en termes de maintien de l'ordre ou l'investigation, la police judiciaire qui reste l'apanage de la police nationale.
Mais j'allais vous parler effectivement des différents profils, on va dire. Est-ce que quelqu'un qui recalait un concours de la police, on le retrouve dans les agences privées de sécurité par exemple? Est-ce que c'est une espèce de voie logique ou...
Alors
pas,
c'est pas forcément une voie logique, mais effectivement il y a des profils qui cherchent du travail dans le domaine de la sécurité, et des fois il y a un peu le hasard d'un concours, d'une réussite. Et c'est vrai que quelqu'un qui peut rater une fois le concours de policier, parce que vous l'avez dit, il n'est pas si simple à obtenir.
Bah tiens, vous allez nous dire à quoi ça ressemble. D'ailleurs, finissez, pardon, excusez-moi.
Le concours n'est pas si simple, et des fois, effectivement, on se tourne vers une police municipale ou vers un poste dans un autre secteur de la sécurité. Police municipale aussi, c'est pour les gens qui veulent rester ancrés dans leur région, dans leur département, parce que policier, souvent, on commence dans les grandes agglomérations, c'est Paris, c'est Strasbourg, c'est Lyon, et si on veut rester dans son territoire, des fois, policier municipal, ça peut être un beau métier aussi.
D'ailleurs, il y aurait de la concurrence avec ceux qui voudraient candidater dans les polices municipales, parce qu'on trouve aussi pas mal d'anciens policiers nationaux, justement.
Pour pouvoir, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir être là où ils le souhaitent, c'est ça? C'est plus simple d'être là où on le souhaite, c'est ça la raison, capitaine Brissot?
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, sur un concours national qui est le concours de gardien de la paix, il y a une forte probabilité de se retrouver en région parisienne, ou en tout cas effectivement dans les grands centres en province.
Comment ça se passe? C'est en fonction de son classement, c'est ça?
Oui, alors il y a deux concours en réalité. Il y a un concours à vocation nationale, où effectivement tous les postes au niveau national seront proposés, et un autre concours que l'on peut choisir avec une affectation en Île-de-France. Donc effectivement c'est au moment de l'inscription au concours que l'on choisit, avec la possibilité d'avoir plus ou moins de monde d'inscrits et plus ou moins de postes d'affectés.
Voilà, et quand vous dites qu'on est souvent affecté en Île-de-France, un peu comme les profs finalement, c'est là qu'on en a le plus besoin et pas forcément dans les endroits endroits les plus festifs. C'est le principe aussi, non, commissaire Chaise?
Oui, c'est le principe. Et en même temps, les policiers, pour beaucoup, aiment venir en Île-de-France parce que c'est là qu'on apprend le métier, qu'on apprend aussi des plus anciens qui ont vécu des tas de choses. Donc voilà, certains veulent...
On est confrontés à du concret parfois.
Tout à fait. Certains veulent rester dans leur région et d'autres ont envie de faire leurs premières années en Île-de-France ou dans les grandes agglomérations parce que vraiment, Lille, Strasbourg, Marseille recrutent aussi beaucoup.
J'entendais le commissaire Chaise nous expliquer que le concours était difficile. C'est quoi le concours en fait? Qu'est-ce qu'on demande? Sur quoi on planche?
Alors, les premières épreuves écrites, ce sont des épreuves justement d'écrire en français, un commentaire de texte en français notamment, et puis ensuite des questionnaires de culture générale ou pour les bacs professionnels métiers de la sécurité, un questionnaire avec des options sur leur bac pro justement. Et puis, pour l'instant, nous avons encore les fondamentaux scolaires sur les bases de français, orthographe, grammaire, mathématiques, ce qui est certainement amené à évoluer dans les prochaines années. Mais on est vraiment sur une base de rédaction française et d'analyse d'un texte, c'est-à-dire qu'on recherche des personnes qui sachent écrire et qui aient du discernement et qui sachent comprendre un petit peu les problématiques qui sont posées.
Mais les 400, les fameux 400 dont on parlait tout à l'heure qui ont été recalés, c'était quel profil? C'était pas assez de quoi? Pas assez de culture générale? Pas assez de maîtrise du français? C'était quoi le problème en fait?
Oui, la problématique qu'on rencontre principalement avec les jeunes aujourd'hui, c'est effectivement la maîtrise de la rédaction française. Uh-huh. C'est pas spécifiquement un problème de maîtrise du français puisqu'à l'oral il est maîtrisé. Uh-huh. Mais dans la rédaction et notamment dans l'exercice que l'on demande, hein, on a des textes qui sont parfois pas simples d'accès et effectivement on a toute cette partie des jeunes, notamment certains qui viennent sans le baccalauréat puisqu'on a un recrutement qui permet justement à des jeunes, le recrutement ADS, je pense qu'on en parlera, qui leur permet d'accéder à un concours qui leur est réservé et c'est surtout sur cette partie-là que l'on a des difficultés avec la base de français sur l'épreuve qui est demandée où effectivement on a des jeunes qui n'ont pas réussi à passer le cap.
Donc vous avez besoin d'avoir un certain niveau par rapport aux procès-verbaux ensuite, à la complexité de la procédure pénale, on en parlera
peut-être. C'est bien normal parce que quand on accueille une victime au sein d'un commissariat, il faut faire preuve de ce discernement, il va falloir prendre le PV et poser les bonnes questions et les retranscrire sous le bon format.
Sur le PV.
Donc voilà, il faut un minimum et le minimum est quand même assez élevé effectivement.
Tiens, cette question qui nous vient de Didier qui est à Nogent-sur-Marne. L'armée a subi beaucoup de désertions ces derniers temps. Est-ce que les abandons de carrière ou de poste sont aussi fréquents dans la police? Est-ce qu'on se trompe souvent de carrière, commissaire Chaise peut-être?
Alors il y en a une centaine par an de démissionnaires. Chez les gardiens de la paix, c'est pas tant que ça. Il y en a aussi qui prennent une disponibilité pour aller voir dans une autre administration ou par exemple monter une auto-entreprise. Le statut de fonctionnaire le permet. Des démissions pures et dures, il y en a quand même pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il peut y en avoir un certain
nombre. Ça veut dire qu'on se trompe moins, en fait. L'un des problèmes qui était évoqué par l'armée, c'était les jeunes qui rentrent ont l'impression qu'ils vont faire tel type de métier qui sera probablement un peu plus romantique avec des actions qui seront plus importantes. Puis ils se retrouvent effectivement à faire le pied de grue ici. Là. Donc est-ce qu'on se trompe aussi dans la police ou moins?
La grande chance de la police, c'est que c'est extrêmement diversifié. On peut commencer en police secours, il y a des métiers d'investigation, la brigade des mineurs, les stupéfiants. On peut faire du renseignement au niveau territorial comme au niveau national. Il y a par exemple la police aux frontières, on peut partir à l'étranger, en outre-mer. Il y a vraiment cette variété de missions qui fait qu'à un moment donné de sa vie, même si on change de logique, même si par exemple parce qu'on a une famille, on veut plus des horaires de bureau, moins travailler la nuit, etc. Il y a tout un tas de métiers qui le permettent. Donc c'est cette grande chance qui fait qu'à des moments différents de la vie, le policier peut faire des choix de mutation géographique ou professionnelle.
Une grande partie du désenchantement de ces dernières années, c'était aussi les missions indues, de faire du statique, on en parlait tout à l'heure, avec les missions de sécurité privée.
Même chose que pour les militaires, au final.
Exactement, absolument. On retrouvait ces cas de figure et avec des agents qui n'en pouvaient plus, plus de l'utilisation d'instruments informatiques, notamment, qui ne marchaient pas. Et ça, pour le coup, il y a eu un vrai changement concret là-dessus.
Il y a un changement à la fois de modernisation dans les outils et dans les missions aussi. On disait vraiment de donner du sens aux missions et il y a un recentrage vraiment sur ce qu'on appelle notre cœur de métier, ce qui est vraiment essentiel. Et une fois de plus, ça renvoie à la première question. On a reversé un certain nombre de missions à des agents privés de sécurité, à des polices municipales, etc.
Ce qui nous amène aussi, pardonnez-moi, à la question de Sébastien qui dit: quels sont les premiers jobs à la sortie de l'école de police? En gros, est-ce qu'on finit tous d'abord à la circulation avant de pouvoir choisir où on a envie de travailler quand on devient policier?
Alors, il y a deux questions un petit peu. Il y a où est-ce qu'on a envie de... ce qui est un lieu géographique, effectivement.
Surtout dans quoi?
Effectivement, dans la spécialité, non, on ne commence pas forcément par la circulation. En revanche, effectivement, c'est une histoire de classement. Il y a un classement de sortie et les premiers vont choisir les postes qui leur sont offerts et parmi lesquels il y a effectivement beaucoup de postes en police secours, ce qui est le métier le plus généraliste et là où on est le plus en contact avec le public au niveau de la police nationale. Mm-hmm. Et puis les derniers au classement auront probablement des postes soit en statique, soit à la circulation. D'ailleurs, ce sont des postes qui sont parfois recherchés, la circulation, contrairement à ce que l'on pense. Parce que la circulation aujourd'hui, ça ne correspond plus à l'image qu'on avait du gardien de la paix qui faisait la circulation il y a 20
avec
ans.
Son sifflet,
voilà, c'est intervenir sur des accidents. Voilà. Là, il y a quand même effectivement beaucoup de missions qui ont été données aux polices municipales. Et du coup, la circulation aujourd'hui chez un policier, ça ne représente pas tout à fait la même chose qu'il y a 20 ans.
Je vous pose la question, Camille Chaise, parce que moi, je l'ai vu, ce spot qui ressemble en fait au spot de l'armée, où on voit des policiers qui sont en pleine
réalisé
action.
Réalisé avec beaucoup moins de moyens.
Alors, oui, j'imagine. C'est un plan séquence qui est plutôt bien fait, d'ailleurs, où on voit effectivement différents métiers, notamment les métiers d'enquête, les métiers, etc. Est-ce que la raison pour laquelle vous avez voulu le montrer comme ça, c'est aussi parce qu'on a une image finalement peut-être un peu vieillissante, un peu vieillotte de la police? Est-ce que ça fait partie des images d'Épinal qu'on peut avoir?
Tout à fait, il y a beaucoup de préjugés sur la police et on connaît finalement assez mal le métier de policier. Nous, on a fait une étude qui montrait que le grand public connaît mal notre police. Il la connaît surtout par les fictions policières, par les séries à la télévision, parfois par quelqu'un qui connaît et qui travaille dans la police, mais finalement le métier, on le connaît pas vraiment.
Donc, sûr, si on croit qu'on va être les experts, on doit être extrêmement déçus, j'imagine.
Tout à fait.
Non, mais j'imagine que ça joue. Est-ce que ça joue vraiment? Sérieusement, vous avez un gamin qui vient vous voir. Il y a un oral ou pas dans le concours de policier à un moment?
Oui, bien sûr. Voilà. Il y a un grand oral de motivation à la fin.
Il y a un oral de motivation et le gamin qui a 18 ou 20 ans vous dit, moi, ce que je veux, c'est être policier parce que j'ai vu les experts. Est-ce que d'emblée, vous vous dites, celui-là, il n'est pas pour nous, donc on écarte sincèrement parce qu'il a une idée qui n'a strictement rien à voir? Ou est-ce que, tant qu'à faire, vous jouez sur cette fibre-là?
Ça fait partie des ressorts qui vont être recherchés pendant l'oral, effectivement. L'oral dure 25 minutes, donc ça ne se situera pas que sur cette phrase, mais ça va être pris en charge. Effectivement, ce qu'on recherche, et à tous les niveaux d'ailleurs.
C'est pas pour lui demander Manhattan, Las Vegas.
Mais à tous les niveaux, ce qu'on recherche, c'est des gens qui se sont intéressés au milieu dans lequel ils veulent travailler. Et on ne peut plus aujourd'hui, moi c'est ce que je dis aux jeunes que je rencontre, on ne peut plus se permettre de se présenter à un concours, quel que soit le niveau, sans connaître l'environnement, c'est-à-dire sans connaître l'organisation, sans connaître les missions, sans savoir ce à quoi on va être confronté. Et il y a des jeunes qui sont très intéressants et qui sont très intéressés et qui connaissent parfaitement ça. Et puis d'autres, effectivement, qui viennent un petit peu en découverte. Et pour eux, l'oral, effectivement, est beaucoup plus difficile.
Mais est-ce qu'on les dissuade quand ils ont une mauvaise idée ou est-ce qu'on les remet dans un chemin plus juste, plus proche de la réalité ou pas?
L'oral ne sert pas vraiment à ça parce qu'on est sur un oral de concours. Donc l'oral, il se termine avec une note. En revanche, je vais peut-être plus vous parler du recrutement des adjoints de sécurité où on a beaucoup plus de relations avec les jeunes puisqu'on est dans un recrutement et pas un concours. Et effectivement, dans la discussion, certains n'ont pas le profil. D'autres, on sent qu'ils l'ont, mais ils ont peut-être d'un petit peu plus de maturité, de réflexion, etc. Donc on peut leur dire, en leur disant de se représenter par la suite. Et puis certains, et ça, on n'est vraiment pas sur une question d'âge, sont totalement acquis à notre cause et vont être très intéressants pour nous.
Tiens, puisqu'on parlait d'âge, pourquoi est-ce que ces concours ne sont pas ouverts aux seniors, aux plus de 50 ans? Ça s'arrête à quel âge?
35 pour la plupart. Alors 30 ans pour le recrutement d'ADS et de cadets de la République, mais effectivement on est sur 35 ans
et
pour les
externes. Pourquoi pas imaginer un policier? Alors, commissaire, c'est pas pareil, si?
Pour le recrutement, si, pour le concours externe. En revanche, on a de plus en plus de réservistes qui, là, peuvent être des seniors, sans aucune difficulté, et qui peuvent venir assister les policiers ou avoir certaines missions de police administrative, d'accueil.
Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de changement de carrière, même si je suis en bonne santé physique, etc.
On peut pas avoir un changement de carrière avant 35 ans.
Voilà, qui décide où on deviendrait policier. Ça n'existe pas.
Oui, on est sur les règles de la fonction publique. Alors, on a effectivement ce qui existe pour toute la fonction publique avec les parents de 3 enfants, les sportifs au niveau qui ne se voit pas opposer la limite d'âge. Mais on reste à la marge, mais ce sont les règles de la fonction publique.
Et bien justement, c'est le sens de la question de Gaëlle. Bonsoir Gaëlle.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Moi je voulais
renchérissez,
savoir, en fait,
Gaëlle.
Les métiers de la police.
Moi aussi je trouve ça injuste.
Recruter, même quand on était déjà un peu âgé, sachant que au Pôle emploi on est déjà un senior quand on a 43 ans, et si on a envie d'une reconversion professionnelle, est-ce qu'on peut éventuellement prétendre à un poste dans la police, en tant que, je sais pas moi, enquêtrice, sur des missions de recherche et choses comme ça, est-ce que on peut prétendre à ce type de poste quand on est déjà âgé, entre guillemets?
Merci Gaëlle, je vous ai vu, capitaine Brissot, faire non comme ça avec la tête, vous décevez terriblement Gaëlle.
Ah, je suis désolée. Effectivement, enquêtrice, ça va pas être possible parce qu'effectivement, ce sont des métiers régaliens avec un concours de la fonction publique et du coup, il faut passer soit par le biais du concours de gardien de la paix, éventuellement celui d'officier de police.
Et donc passer par la limite d'âge, c'est ça que vous dites.
Et effectivement, se voir opposer la limite d'âge, sauf pour les parents de 3 enfants, j'insiste. Oui. Mais voilà. Alors après, si l'on veut vraiment rentrer dans la relation police-population, il y a effectivement la réserve qui est possible, mais on ne sera pas dans un rôle d'enquêteur, en tout cas, par rapport au judiciaire. Ça ne sera pas possible.
Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là, commissaire Chaise, ou pas?
Alors, des réservistes.
Est-ce qu'elle est toute seule, Gaëlle, avec ce genre de questions?
Alors, il y a pas mal de demandes. Nous, on les voit sur les réseaux sociaux de la police, notamment sur Facebook, où il y a beaucoup de personnes qui nous disent c'est dommage qu'il y ait cette limite d'âge. Nous, on les renvoie vers cette réserve qui permet déjà de vivre avec les policiers, dans le quotidien des policiers, et d'avoir des missions tout à fait intéressantes et de créer ce lien qui, parfois, dans cette zone, certaines zones, peut manquer avec la population. Donc, moi, ce que je conseillerais à Gaëlle, c'est de franchir les portes de son commissariat et d'aller demander un dossier pour devenir réserviste.
Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Michel. Soyez le bienvenu.
Merci. Je voulais mettre en parallèle la formation des policiers et celle des gendarmes. Je me trompe probablement, mais les gendarmes qui sont des militaires ont une formation, me semble-t-il, plus rigoureuse que la formation des policiers. Là encore, c'est peut-être une erreur. Il y a également un élément qui peut les mettre en parallèle. Et nos charmantes correspondantes de la police vont pouvoir nous expliquer ce qu'il en est du syndicalisme chez les policiers et de l'absence de syndicats chez les gendarmes. Ce qui fait qu'il y a peut-être dès le départ au niveau de la formation une possibilité d'être davantage curieux, voire d'être sinon contestataire, du moins ne pas hésiter à trouver ce qui colle pas dans le métier de policier. Merci beaucoup.
Merci Michel. Alors, contestataire dans la police, des grèves de la police, on en a vu sous des formes particulières. C'est pas régulier non plus, commissaire Chaise. Ça existe, hein.
C'est tout à fait exceptionnel. Les grèves sont interdites dans la police. C'est notre statut qui nous y oblige. En revanche, effectivement, on a des syndicats et ils sont très importants pour nous parce qu'ils font remonter des problématiques de terrain, des problèmes qu'il faut régler. Ils font remonter à l'administration, que ce soit des problèmes budgétaires, logistiques. Donc, c'est vrai qu'ils existent, qu'ils sont extrêmement forts et puissants dans la police nationale. Et j'allais dire, effectivement, dès son début de vie professionnelle, ces syndicats sont là pour faire le lien en tant que représentant du personnel.
Et sur la différence de formation entre gendarmes et policiers, Capitaine Brissot ?
On est sur des missions qui sont quand même très proches. Après, c'est le lieu d'exercice qui change de fait les missions. Et sur la formation, les gendarmes ont effectivement une formation militaire, clairement, puisque ce sont des militaires et qu'ils sont amenés pour un petit pourcentage de leur mission à partir à l'étranger avec les armées. Donc, cette formation militaire est dans ce sens où monsieur, j'imagine, l'entend peut-être plus rigoureuse et notamment plus physique. Mais nous avons, nous, en termes de formation, également des épreuves physiques tout au long de la formation des gardiens, des officiers, des commissaires. D'ailleurs, il y a des épreuves au concours qui sont physiques et qui sont relativement compliquées également. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de réelle différence, si ce n'est cette formation militaire pour les gendarmes, mais dans l'optique de partir à l'étranger lorsqu'ils ont à faire ça à un moment dans leur carrière.
Du fait du terrorisme, on s'est aussi beaucoup réformé en termes de formation, en mettant davantage de simulations. Par exemple, il y a des simulations sur ce qu'on appelle les tueries de masse, donc comment agir face au terrorisme. Donc la formation s'est vraiment modernisée ces derniers mois, et c'est vraiment une très bonne chose. Et de plus en plus, on va essayer de développer des modules qui font travailler ensemble les différents corps de la police nationale, les gardiens de la paix, les officiers, les commissaires de police. On travaille ensemble au quotidien. L'idée, c'est aussi d'avoir des modules de formation conjoints, tous les corps, de manière très transverse, pour être plus efficaces ensemble. Voilà, effectivement, il y a des écoles nationales de police pour les élèves gardiens de la paix et pour les commissaires et les officiers de police, c'est une autre école. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des modules communs sur ce qui nous touche tous, la déontologie, les techniques d'intervention. On peut tout à fait être formés ensemble sur ces modules.
Vous avez évoqué des formations spécifiques, effectivement, depuis les attentats. Donc répondre à une attaque dans une foule, c'est ce que vous disiez. Peut-être de répondre exactement à ce qui s'est passé il y a deux jours, d'ailleurs, comment maîtriser au moment d'une attaque au couteau. Qu'est-ce qui a été réellement changé, modifié dans le... dans l'apprentissage des policiers? Et
l'idée, c'est qu'on a changé vraiment de paradigme. Avant, face à un individu qui est armé, que ce soit d'un couteau ou d'un pistolet, on isolait l'individu au maximum et on attendait une unité spécialisée telle que le RAID. Aujourd'hui, tous les policiers savent qu'ils doivent intervenir, qu'ils peuvent intervenir, et on leur a donné les moyens en termes de formation de savoir comment ils doivent agir pour arrêter l'assaillant dans sa course folle, dans sa course meurtrière. Donc c'est un vrai changement de paradigme qui fait que ce qui a pu se passer ce week-end par ce gardien de la paix de police secours a pu mettre fin à cette tuerie qui aurait été sans ça beaucoup plus importante.
Capitaine Brissot, on sait tirer pour tuer. En gros, c'est ça que ça veut dire aussi dans ce genre de cas-là.
C'est-à-dire qu'on apprend aux policiers à tirer dans le cadre... à l'origine de la légitime défense. Mmh. Et la légitime défense, c'est sauver sa vie ou celle de quelqu'un. Très peu de temps pour réfléchir, voire pas de temps pour réfléchir. Donc effectivement, les formations au tir, c'est effectivement tirer pour tuer, pour sauver sa vie ou celle de quelqu'un. Il faut être très clair. Maintenant, il y a une évolution législative de l'utilisation de l'arme à feu qui a eu lieu l'année dernière. Et du coup, effectivement, il faut une grande réactivité de la formation dans ce cadre-là, parce qu'il faut coller à l'évolution législative qui permet aujourd'hui, dans le cadre effectivement d'un tueur, comme on a vu ce week-end, de pouvoir réagir sans se questionner est-ce que je suis bien dans le cadre de la légitime défense, parce qu'on a l'impression que c'est simple.
Que les policiers avaient réclamé, d'ailleurs.
On a l'impression que c'est simple, la légitime défense. Mais lorsqu'on donne, moi je donne un exemple concret aux jeunes, vous courez derrière quelqu'un qui a une arme à feu, il se retourne, vous avez même pas une seconde pour savoir est-ce qu'il va me tirer dessus ou pas, vous lui tirez dessus, il continue sa course alors qu'il ne vous a pas tiré dessus, vous lui tirez dans le dos, on va dire que vous n'étiez pas en état de légitime défense. Mais qui aurait pu faire autrement à ce moment-là?
Ça veut dire qu'il y a une meilleure maîtrise de l'arme, en tout cas, désormais, qu'il pouvait y en avoir une avant, ou pas? Est-ce qu'on peut dire ça? De la part des policiers.
C'est surtout la législation qui a évolué pour s'adapter au contexte des attentats, et ça c'était une très bonne chose. On ne pouvait plus rester dans un cadre juridique tellement contraint, tellement restrictif, parce qu'on annihilait complètement l'action policière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Et est-ce que dans les écoles, les modules justement se sont améliorés, se sont renforcés pour faire plus d'heures de tir? Parce qu'on sait que pour la formation continue, là, pour le coup, il y a eu des soucis ces deux dernières années, parce qu'on s'est rendu compte que les policiers manquaient d'heures de tir, parce que des fois, les pas de tir étaient pas aux normes. Tout a été, on a vu ça en Île-de-France notamment, avec des gros problèmes de pouvoir tirer, même ne serait-ce que 3 fois par an.
Voilà, la norme, c'est 3 tirs annuels pour quelqu'un dans un équipage de police secours. Après, quand on travaille par exemple en brigade anticriminalité, c'est vraiment le socle de base. Les policiers qui travaillent par exemple dans les brigades anticriminalité doivent faire davantage d'heures. Et il y a aussi des gestes et des techniques d'intervention en plus du tir seul. Effectivement, pour la police, il faut bien voir que c'était une petite révolution, ce changement de paradigme que j'évoquais. Et donc, au début, il y a eu un petit peu d'embouteillage, on va dire, sur les stands de tir. Mais aujourd'hui, c'est résolu et vraiment, les formations tournent à plein.
Alors, vous avez évoqué la formation continue, effectivement, où on a un minimum de 3 tirs. C'est un minimum, donc on peut bien évidemment faire plus. En revanche, pour ce qui est de la formation initiale, et c'est celle qui est fondamentale, puisque c'est à l'issue de la formation initiale que l'on va être habilité à l'arme à feu, il n'y a pas de problème, puisque les écoles ont des stands de tir. Et effectivement, on a beaucoup plus de séances de tir. On en a au moins une fois par semaine.
C'est un peu comme le permis de conduire. Il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps pour s'acclimater à l'arme. Ouais. Moi, personnellement, j'étais pas très très douée, je dois l'avouer. Donc, j'ai été assez longtemps au stand de tir avant vraiment de maîtriser mon arme. Et c'est pour ça que je continue à y aller assez régulièrement.
Sauf qu'au permis, on repasse pas le permis justement au fur et à mesure de sa vie, alors que parfois, peut-être qu'on devrait. Tiens, retour au concours avec Anaïs. Bonsoir, Anaïs.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Anaïs, on vous écoute.
Merci beaucoup. Pour ma part, je voulais revenir sur le recrutement des candidats, parce que j'entendais qu'il y en a certains qui avaient été recalés parce qu'ils n'étaient pas assez qualifiés. Et en fait, j'ai une amie qui était avec moi en master en droit et qui a passé un master 2 en carrière judiciaire, qui était réserviste et son rêve, c'était de travailler dans la police. Donc elle a d'abord passé le concours de commissaire qu'elle n'a pas eu parce qu'il est très très difficile. Et donc en voulant poursuivre son rêve de travailler dans la police, elle a passé le concours de gardien de la paix. Et en ayant un master en droit, je pense qu'elle avait des qualités rédactionnelles en français et en culture générale quand même plutôt avérées. Et sauf qu'on lui a répondu qu'elle était surqualifiée et qu'elle n'aurait donc pas le concours. Et donc son rêve d'être gardien de la paix. Donc ça rentrait un peu en contradiction en fait finalement avec ce que j'ai entendu. Et donc j'aurais aimé savoir le pourquoi du comment finalement.
Merci beaucoup Anaïs. Bonne question, capitaine Brissot. Alors quand on est sous-qualifié, effectivement ça marche pas, on comprend, mais surqualifié non plus, même si on a envie.
Non. Alors là on mélange effectivement deux concours. On a d'un côté le concours externe de gardien de la paix qui est ouvert aux bacheliers et Bac plus 2, 3, 4, 5. Et on a effectivement beaucoup, beaucoup de diplômés qui se présentent à ce concours. Lorsqu'on évoquait les postes non pourvus, on évoquait essentiellement le concours, on va dire, réservé aux adjoints de sécurité qui, eux, sont recrutés sans condition de diplôme. Mais parmi lesquels, nous pouvons avoir des diplômés. D'accord. Donc, il faut faire attention.
Mais donc, ça veut dire qu'elle a passé le mauvais concours
Tout dépend, en fait. Il y a des Bac plus 5 qui réussissent le concours de gardien de la paix. Il y a des bacheliers tout simples qui réussissent le concours de gardien de la paix. Et on a des diplômés Bac plus 5 qui ne réussissent pas ce concours. Puisque, une fois, alors, je pense que cette personne a dû réussir à passer le cap de l'écrit, normalement. normalement, sans difficulté. Mmh. Mais ensuite, on a des épreuves sportives. Hein. On a à peu près 15 à 20% d'éliminés au sport, ce qui est quand même assez important, puisque les jeunes ne se projettent pas et ne se préparent pas forcément, et à tous les niveaux, y compris au niveau du concours de commissaire. Et ensuite, on a des épreuves de mise en situation. On va tester la capacité de la personne à se projeter. Et enfin, on a l'oral. Et l'oral est déterminant, puisque les personnes du jury vont se dire, est-ce que moi, j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que je sens qu'elle est fiable? Et est-ce que je sens qu'elle est faite pour ce poste? Mmh. Et on peut pas systématiquement décliner. Alors certains ont le profil pour être effectivement sur le terrain gardien de la paix, y compris lorsqu'ils ont Bac+5. En revanche, d'autres sont vraiment faits pour commander, pour diriger, et dans ce cas-là, on ne va pas les accepter à un concours où ils n'auront pas ce rôle-là, parce qu'il risque d'y avoir une vraie frustration dans le métier, et avec une difficulté relationnelle dans le cadre du management avec les supérieurs hiérarchiques. Donc en fait, c'est ce qu'on teste hein, dans les concours, c'est pas seulement le niveau de diplôme, il y a un niveau de diplôme minimum qui est requis, mais en revanche, ce qu'on cherche, c'est des personnes qui sont en adéquation avec le poste. Et c'est ce que nous, avec mon équipe, lorsqu'on va sur les forums, etc., c'est ce que l'on passe aux jeunes. Avant de nous dire quel diplôme vous avez, dites-nous ce que vous avez concrètement envie de faire dans la police nationale et on va vous dire comment vous pouvez y arriver.
Alors là, par exemple, l'ami d'Anaïs, qui visiblement est très diplômé, donc a peut-être effectivement une âme de commandante qui dirige, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tant pis, vous avez frappé à la mauvaise porte, ou est-ce qu'il y a un moyen de passer une autre case et de passer un autre concours?
Non, on lui dit de venir clairement voir mon unité, enfin mon unité pour ce qui est d'Île-de-France, mais j'ai des homologues en province, et nous sommes là véritablement pour conseiller les jeunes, pour les aiguiller, pour leur donner les conseils par rapport au concours, par rapport à leur orientation, par rapport au métier, par rapport à toutes les variétés qui ont pu être évoquées sur les évolutions possibles, y compris les évolutions en interne. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir, puisqu'on est sur tous les forums, on a également parfois des accueils au public, et on répond aux appels.
Et en parlant de profil, bonsoir Émilie.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Merci. Alors, donc, j'ai 33 ans, je suis officier de police depuis un peu moins d'un an. J'ai eu le concours, en fait, en 2016. Donc, j'ai ensuite fait la formation. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis issue d'une école de commerce et qu'en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle à 30 ans. Mm-hmm. Puisque, j'ai eu une sorte, voilà, d'envie soudaine de tout changer. Et je voulais témoigner du fait que j'avais été très seule, en fait, pendant tout le temps de ma reconversion professionnelle, que ce soit du début pour quitter mon travail et être aidée par des aides, par exemple, que pendant la préparation du concours, jusqu'à même le concours en lui-même, qui est, pour les officiers, j'entends, très axé juridique, donc qui concerne essentiellement des étudiants en droit et des étudiants issus de Sciences Po. Mmh. Donc moi, à profit d'école de commerce qui n'avait jamais fait de droit, j'ai passé 2 ans à potasser mes bouquins de droit. J'ai fait une petite préparation en faculté, mais c'était quand même assez léger. Et je voulais dire que je trouvais ça vraiment dommage de pas aider des profils comme les miens, très motivés, sur les autres compétences qu'ils ont pu acquérir. Moi, j'ai fait du conseil en management pendant 5 ans. À l'oral d'officier, on ne m'a posé aucune question là-dessus. Voilà. Enfin, c'est peut-être une expérience malheureuse, mais bon, j'ai eu le concours. Mais je précise aussi que l'année où je l'ai eu, on a été 33 recrutés au concours externe sur 1500 inscrits, ce qui rajoute une difficulté psychologique dans tout ça.
Et j'ai une curiosité, Émilie, le moment où vous avez réalisé que vous vouliez être policier, c'était quoi? Parce que je vois les concordances de temps, en fait, autour de 2016. Est-ce que c'est lié 2015-2016? Est-ce que c'est lié aux attentats ou pas du tout?
Non, c'était en fait, ça a pris du temps, mon processus a pris du temps. C'était en 2013, j'étais en poste dans le conseil à Paris. Et ça s'est fait petit à petit, le temps de quitter mon travail. En fait, je rectifie, j'ai eu les écrits en janvier 2015, j'ai intégré l'école en janvier 2016.
D'accord, voilà. Merci beaucoup, Émilie, pour votre question. Capitaine Brissot, très seule, Émilie, finalement. Et puis surtout, elle se débrouille pour savoir quelle est la bonne solution pour pouvoir avoir les concours derrière, qu'est-ce qu'elle doit suivre, qu'est-ce qu'elle doit réviser.
Oui, alors seule effectivement parce qu'on a un chemin qui est un peu tout tracé, c'est effectivement la faculté de droit et puis ou alors sciences politiques parce que une partie des épreuves, mais il y a une réforme en 2014 sur les épreuves, une partie des épreuves reste encore juridique, mais toute la phase orale en revanche ne l'est plus. Donc aujourd'hui on est beaucoup plus ouvert sur d'autres profils et effectivement on est tout à fait ravis d'accueillir d'autres profils. La question c'est comment les toucher, comment aller les chercher. Donc on va effectivement dans les universités, les facultés, on va essayer d'aller dans d'autres écoles pour avoir effectivement des profils différents. Mais effectivement, on reste aujourd'hui sur des profils juridiques, même si ce n'est pas exclusif pour les autres. En revanche, réussir ce concours d'officier qui est quasiment le plus sélectif aujourd'hui de la fonction publique, parce qu'en général, il y a plutôt 2500 inscrits pour quelques dizaines de postes, c'est une très très belle réussite. Donc, d'autant plus lorsque la préparation a été faite seule.
Il n'y a pas d'école préparatoire ou de formation préparatoire,
justement. question, effectivement, avant. Une prépa avant, pourquoi pas, ça existe ou pas?
Alors, on a une préparation pour les internes, parce qu'on a une promotion interne qui est très importante. Hein. 50% des postes de tous les concours, hein, officiers ou commissaires, sont fournis en interne. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour nos internes, effectivement, il existe une préparation. En revanche, pour les externes, il y a les universités qui préparent, tout simplement. Donc je pense que...
Ça n'existe pas une boîte à prépa pour préparer le concours, hein, comme ça existe pour plein de concours, en fait.
Ah, il y a des préparations privées qui existent, d'accord. Il y a des préparations publiques dans le cadre des universités. La police, à l'heure actuelle, ne propose pas de préparation propre au concours d'officier ou de commissaire. En revanche, elle propose un accompagnement qui peut s'exercer par le biais notamment de notre entreprise, les UPREC.
Je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui nous appellent, beaucoup de femmes aussi autour de cette table. Est-ce que le pourcentage des femmes dans la police est plus important, est en train de monter? Surtout, est-ce que les missions sont exactement les mêmes, qu'on soit un homme ou une femme? J'ai appris une subsidiaire parce que quelqu'un nous dit sur franceinter.fr qu'il a remarqué qu'en revanche, c'était un jeune homme qui était sur le fameux spot qu'on voit à partir d'aujourd'hui. Donc, finalement.
Alors sur le spot, il y a deux jeunes hommes et il y a une jeune femme aussi qui veulent devenir policier.
Voilà, deux contre un.
Mais bon, c'est les proportions actuelles au sein de la police. Environ 30% de femmes et c'est en augmentation année après année. Pour votre question, oui, tous les postes et les missions sont ouvertes aux femmes sans distinction. Ce qu'il faut voir, et c'est pas anecdotique du tout, c'est que plus on monte en grade, plus il y a de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes commissaires de police et officiers de police proportionnellement que gardiens de la paix. Peut-être parce qu'elles sont aussi un petit peu plus fortes à l'université et sur les matières scolaires. Donc, pour moi, le fait qu'il y ait des femmes dans la police, ça participe aussi de la modernisation de l'institution. On est vraiment une police qui se veut à l'image de la société, avec toute la richesse et la diversité des profils, que ce soit des milieux socio-professionnels, que ce soit...
Les couleurs, disons les choses clairement. Des
zones où on a vécu, rurales, urbaines, périurbaines. Et pour moi, la présence de femmes, ça participe de cette modernisation.
Emmanuel,
justement, aujourd'hui, il y avait un témoignage aujourd'hui en France, Le Parisien, de Danzo, alors c'est un nom qui a été modifié, mais qui a démissionné de la police et qui, dans son interview, dit que à son époque, quand il était plus jeune, la police allait chercher des jeunes dans les quartiers sensibles, et ce n'est plus le cas. Est-ce que c'est une réalité ?
Non, pas du tout. En fait, la police, elle ouvre ses portes à tout le monde parce que ce qui est important, c'est effectivement que la police soit à l'image de sa population. La police nationale, elle a été la première à mettre en œuvre l'égalité des chances dans l'administration. Et effectivement, pas à tous les niveaux, c'est-à-dire à tous les concours qui sont ouverts à tous, quel que soit son diplôme. Si on a un bac plus 5, quelle que soit son origine, qu'on vienne d'une ville, d'une campagne ou quelle que soit son origine autre, on peut présenter ces concours-là. Et on a aussi, dans le cadre de l'égalité des chances, pour les non-diplômés, la possibilité quand même de rentrer dans la police nationale via le recrutement des adjoints de sécurité. Et moi qui participe régulièrement à des oraux de sélection pour ces jeunes, je rencontre des jeunes de toutes... Alors nous, moi je travaille en région parisienne, donc je vais sur tous les départements, des jeunes qui sont en zone rurale, des jeunes qui viennent des quartiers, on en a beaucoup, ils sont très courageux.
Donnez-nous un pourcentage honnêtement, capitaine Brissot, est-ce qu'on peut dire, disons les choses comme ça, est-ce qu'il y a une grande majorité de postulants qui sont blancs, comme vous et moi? Est-ce que le pourcentage, est-ce que ça attire vraiment un gamin qui est d'origine nord-africaine ou d'origine africaine, peu importe, enfin voilà, qui porte sa couleur aussi et qui a envie d'être flic? Est-ce que vraiment ce métier l'attire? Est-ce qu'il sent une appétence pour le métier de policier? Ou est-ce que les relations étant parfois difficiles, oui, c'est compliqué d'aller chercher ces jeunes-là?
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit si compliqué d'aller les chercher, parce que nous qui passons notre temps dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées de tous les départements d'Île-de-France, on ne rencontre pas tant de difficultés relationnelles, et voire plutôt une curiosité. Pour votre question, je ne peux pas vous donner un pourcentage. On n'a pas de pourcentage. Moi, je vous invite à aller faire des reportages sur les écoles de formation. Vous verrez par vous-même. Je vous invite à aller faire des reportages sur les agents de sécurité affectés. Oui, bien sûr, affectés à Paris. Alors moi, qui suis en Île-de-France, oui, j'ai évidemment beaucoup de gens qui sont de couleurs différentes, parce que lorsqu'on va recruter dans le 93, dans le 94, etc., on rencontre ces profils-là. Je pense que mes homologues en province qui travaillent en Creuse, ils vous diront pas la même chose que moi. C'est évident. Donc oui, en région parisienne, on a. Je ne peux pas vous donner un pourcentage, mais c'est une réalité qui n'a aucun problème.
Et pour être allé il y a 2 ans, justement, après le boom des candidatures et des recrutements, j'étais allé à l'école de Sens, et effectivement, il y avait énormément de jeunes d'origine d'Île-de-France, et qui étaient de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines sociales et géographiques.
Et tant mieux, cette question de Jean-Pierre qui vient de Bretagne. Mon fils veut devenir policier, mais j'ai peur. Avec les attentats, j'ai l'impression qu'ils sont devenus des cibles faciles. Comment me rassurer? Alors oui, c'est vrai, vous êtes devenus des cibles, ça c'est une réalité.
Alors oui, c'est une réalité. On a fait récemment un sondage qui disait que 92% de la population sondée trouvait que c'était un métier dangereux. Le danger, il est là. Nous, notre objectif, c'est pas de le taire. On sait qu'on peut être pris pour cible. C'est pour ça qu'on est armé. C'est pour ça qu'on est formé à faire usage de son arme. C'est pour ça aussi qu'on travaille en équipe. Donc oui, ce métier est dangereux et c'est aussi et surtout un métier d'engagement. Il faut pas venir dans la police avec des idées préconçues, des fictions policières pleines en tête. Ça peut être un vecteur pour être attiré par ce métier. Mais il faut avoir une vraie conscience de ce à quoi ça engage. Ça engage à l'exemplarité, à la dignité en toutes circonstances et ça engage aussi à un moment donné à devoir peut-être faire usage de son arme, à devoir défendre la population et peut-être à être pris pour cible et à devoir se défendre.
Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Sylvain, c'est vous le dernier. Allez-y.
Eh ben c'est moi le dernier, formidable. En tout cas, bravo pour vos émissions. Juste un témoignage. J'ai deux filles qui sont super connectées, dont l'une qui est presque en âge d'avoir un véritable métier. Et j'ai été confronté, j'habite dans le 5e arrondissement de Lyon, à une situation complètement ubuesque avec un officier de police qui devait prendre une déposition et qui a dû changer à 3 reprises d'ordinateur. Qui pour surélever son écran mettait une pauvre amette pour avoir un petit peu de hauteur. Alors je veux bien qu'on appelle à recruter de la jeunesse, à recruter ces nouvelles générations pour nous sécuriser plus tard, mais si on leur donne pas les moyens techniques de le faire, c'était vraiment assez incroyable quoi.
Merci beaucoup Sylvain, il a raison Sylvain.
100%, il a 100% raison. Alors la police, elle se modernise, on part de très loin, faut le dire. Nos systèmes d'information, nos outils informatiques étaient il y a quelques années vraiment obsolescents. On se modernise, ça prend du temps. Maintenant, la plupart des policiers ont des smartphones, des tablettes en patrouille. Donc ça vient, ça arrive, ça prend du temps, mais aussi elle se modernise.
Fournis, rassurez-moi, ils ne sont pas obligés de partir avec leur propre tablette pour que ça aille plus vite.
Bien sûr, fournis par l'administration, bien entendu.
10 000, hein.
Oui, non, mais évidemment.
Bah, justement, Léa, qui est dans le clip hein, que vous avez réalisé, disait hier que ça lui a changé la vie. Elle a été embauchée il y a 5 ans et elle dit que là, ces deux dernières années, ça lui a complètement changé la vie.
Mais c'est grâce à cette jeunesse qui est recrutée aussi que la police, elle mute. Parce qu'effectivement, les jeunes, ils ne comprennent pas qu'on travaille sur des systèmes qui peuvent parfois ressembler au Minitel. Donc tout ça participe de la même évolution, à la fois des personnes qu'on recrute, des jeunes qu'on recrute.
Non, mais un gain de temps, et aussi des outils énorme. Qu'on utilise. Ça lui a fait gagner un gain de temps énorme, rester plus longtemps sur le terrain, discuter avec les personnes qui se font verbaliser et au lieu de rester 3 heures avec eux, elle reste 10 minutes, elle est très contente et les gens qui se font verbaliser aussi.
On dit qu'il y aura à peu près autour de 25 000 personnes qui postuleront pour les concours à venir.
C'est la moyenne, entre 20 et 25 000. Effectivement, notre idée, c'est d'avoir le maximum de candidats pour choisir les meilleurs, parce qu'une fois de plus, c'est pas un métier facile.
Mais est-ce qu'il y a toujours un engouement difficile. On va parler du fameux chiffre de 36 000 après le Bataclan, on se souvient pourquoi. Mais est-ce qu'on est toujours dans cet esprit-là quand même? Est-ce qu'il est toujours suffisamment vivace pour créer des vocations ou pas?
Tout à fait. L'engouement, il est là. On le voit à chaque concours, que ce soit celui de gardien de la paix, adjoint de sécurité, officier, commissaire. L'engouement, il est là, il reste. Et c'est aussi les policiers qui donnent envie chaque jour de continuer à exercer ce beau métier.
Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à vous qui avez appelé. Nombreux, comme d'habitude, portez-vous bien.